Vous demandez si vous êtes de gauche ou de droite, c'est pas du tout ça la question. C'est la question très très importante pour chacun, qu'on soit intéressé en politique ou pas, sur comment Dieu nous interpelle. Si on lui dit, ben, comme on l'a dit dans la louange, hein, ben, voici nos vies, on t'appartient, fais ce que tu veux de nous, t'es mon Seigneur, ok, c'est facile à dire. Mais est-ce qu'il a un avis sur la politique? Est-ce qu'il a un avis sur notre attitude de chrétien dans ce monde? Est-ce qu'on a le droit de s'en foutre? Est-ce qu'on a le droit de critiquer? Est-ce que c'est bien et c'est juste et qu'il nous demande d'être critique face aux potentats qui nous abusent? Ou est-ce qu'il faut être juste soumis? Est-ce qu'un chrétien peut voter, doit voter, ne doit pas voter, peut voter, doit voter blanc? Est-ce que la Bible parle de ça? Eh bien oui. Et je vais me risquer sur ce terrain glissant. Voilà, donc un message spécial élection municipale, on est dans les temps. Église et politique, pas du tout un bon ménage. Chaque fois que le pouvoir s'est mêlé à l'Église ou que l'Église s'est mêlée au pouvoir, ça a été plutôt des... C'est retombé, hein? Vous m'entendez comme bien, hein? Tu veux m'en mettre mieux? Pardon? Tu veux m'en mettre? Bon, vous m'entendiez quand même. Bon. Ah oui, pour Denis, tu m'entendais plus? Oh, ça va mieux maintenant. Super. T'as compris ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Super. Donc, église et politique, pas bon ménage. Les exemples, c'est terrible. Vous êtes d'accord? Si le peuple de Dieu n'a rien à dire sur l'économie, sur la gestion du pays, c'est lamentable. Mais quand il se mêle de dire quelque chose, c'est souvent encore pire. On vient à des théocraties où on impose aux autres notre morale. Bon, remarquez, quand on n'impose pas aux autres notre morale, c'est eux qui nous imposent leur immoralité. Donc, est-ce que c'est mieux, hein? Mais dans les deux cas, ce n'est pas très bon. Donc, pas bon ménage, comment on peut s'en sortir de ça? Alors, je vais l'introduire, ce message, avant de prendre un texte biblique, avec deux petits éléments pour nous bousculer un peu et nous faire réfléchir. Première chose, c'est un père de l'Église, Olivier Clément, c'est un orthodoxe, qui a dit bien avant le réchauffement climatique, bien avant la disparition des espèces, bien avant les pollutions relationnelles, morales, écologiques, physiques, psychiques et autres, un père de l'Église qui avait tout compris par cette phrase. Il a dit ceci: l'homme veut s'emparer, discuter, intervenir dans les choses de Dieu, mais sans Dieu. Et ainsi, en croyant bien faire, il finit par livrer la nature entière à la mort. Exactement ça. L'homme veut s'emparer et intervenir, et il a raison, c'est son mandat, dans les choses de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé, donc toutes les choses sont de Dieu, puisque c'est le Créateur, il est à l'origine de tout. Donc on veut travailler avec ça, mais sans Dieu. Donc en croyant bien faire, finalement, il amène tout à la mort. Et c'est profondément vrai, profondément juste. La deuxième petite illustration pour introduire mon propos, je le tire dans le journal de la FRAE, la Fédération romande des églises évangéliques, qui avait une chronique dans son journal pendant tout un temps, elle est terminée maintenant, par quelqu'un qui inventait des histoires de l'époque de Jésus, mais comme si elles se passaient aujourd'hui. Et là, c'est l'histoire de Paul, l'apôtre, qui fonde des communautés. Et on a les lettres de Paul à ses communautés, mais là, il invente une lettre d'une communauté qui est adressée à Paul, une épître d'une communauté qu'il a fondée à Paul. Et je vous lis quelques extraits, c'est justement sur ce sujet de la politique, vous allez voir, c'est pas triste. « Bien cher frère Paul, notre frère en Jésus-Christ, le groupe biblique que vous avez fondé lors de votre passage dans notre ville se porte bien. Nous vous en donnons d'excellentes nouvelles. Il a commencé par s'occuper des problèmes d'évangélisation et maintenant, il se penche un peu sur la structuration de cette église nouvelle. Vos principes sont excellents et nous les appliquons. Fonder des églises, leur donner des structures, des anciens, des ministères variés. Mais nous aimerions poliment vous faire remarquer quelque chose. » Et là, il dit plusieurs choses et j'arrive. Une église peut parfaitement survivre si elle ne s'occupe pas, pardon, si elle s'occupe que de ses membres et de leurs petits problèmes. Bien sûr, vous nous répondrez que telle n'était pas la vision du Christ. Mais soyons réalistes. Ne vaut-il pas mieux être concret qu'utopiste? Notre communauté est petite. Nous en sommes heureux. Nous sommes bien ensemble. Personne n'est oublié parmi nous. Tout le monde se connaît. De plus, nous évitons avec soin d'aborder toute question politique qui ont trop tendance à nous diviser. En fait, les questions sociales gêneraient l'adoration de nos cultes. Personne ne pense à faire de reproches à un viticulteur parce qu'il y a des alcooliques. Personne ne voudrait reprocher à un banquier un éventuel usage d'argent sale dans l'Église. Personne ne voudrait aborder que des mécaniciens fabriquent des armes. Nous jouissons trop de notre heureuse communion pour laisser ces problèmes venir nous troubler. Nous souhaitons, cher Paul, un ministère béni, mais nous avions besoin de faire cette petite précision. Nous voulons une orientation réfléchie, concrète, pour nous permettre de continuer, grâce à Dieu, de vivre notre petit ciel bleu entre nous. Voilà. Une lettre qu'on peut imaginer, écrite à l'apôtre Paul, pour dire, au fond, tout ce que tu nous as dit, ça va bien, mais le seul problème qu'on a, c'est qu'on se rend bien compte que l'évangile de Jésus-Christ avait en germe des choses qui atteignaient aussi la société, pas juste la louange, pas juste le bien-être entre nous. Qu'on ne peut pas comme ça laisser le monde aller comme il va et puis faire nos petits cultes, nos petits ciels bleus en attendant la fin du monde. Donc ils sentent bien qu'il y a ce problème. Mais alors qu'on peut imaginer que Paul leur avait dit, il faut vous inquiéter un peu de la situation de la ville, hein, chercher le bien de la ville où vous êtes. Et ils ont dit, ça on ne peut pas. Parce qu'on sent trop que ça va nous diviser. Et on est bien entre nous. Alors, comment aborder cette question? Eh bien, je vous propose ce matin de le faire avec le livre du prophète Zacharie. Et je vous propose ce matin un survol en prenant comme modèle Zacharie. Vous savez que c'est un homme qui a voulu reconstruire le temple. Donc il n'a pas voulu reconstruire la ville, il y a d'autres prophètes et d'autres hommes de Dieu qui ont reconstruit la ville, la politique, les institutions, la muraille pour se défendre de l'ennemi. Lui, pas Zacharie, c'est vraiment notre sujet, il parle de l'Église, il veut reconstruire le temple, il veut reconstruire la maison de Dieu et il veut que cette maison ait un impact de réveil, de rayonnement tout autour. Et il veut renouveler le culte à Dieu. Donc on ne parle pas de politique et pourtant on va voir comment ça atteint, ça touche notre cœur profond et comment ça va avoir un rayonnement si on comprend bien quelques principes de ce prophète Zacharie. Donc vous voyez que là on s'éloigne déjà un petit peu du cœur de notre sujet parce que je crois que c'est ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas que vous votiez à gauche ou à droite ou qu'on soit plutôt des gens qui veulent s'investir ou plutôt des gens qui disent moi je préfère prier, ce n'est pas tellement l'enjeu finalement, on peut avoir des appels différents, mais qu'on comprenne vraiment en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, en tant qu'ambassadeur du ciel sur la terre, quel peut être notre cœur, quel peut être notre fondement, comment notre fondement associatif, notre engagement de mère de famille, de travailleur ouvrier, de chef d'entreprise, où qu'on soit, d'artiste, pourquoi pas, comment on peut être fondé en Dieu pour avoir un rayonnement autour de nous, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas dire soit témoin, on est témoin de toute façon, toujours pour ou contre Dieu, en bien ou en mal. On n'a pas besoin de forcer d'être témoin, on est tous témoins tout le temps de quelque chose, hein, qui peut être bien ou qui peut être mal. Donc, on va faire un petit parcours ce matin dans Zacharie, on va commencer par un premier texte qui pose bien ce problème du politique et de l'Église, et après on va voir un petit peu le cœur de Dieu au travers de différents textes. Zacharie 6, versets 12 à 13, qu'on va afficher là dans la version Semeur. Il y a plusieurs traductions qui sont très différentes sur ce verset, et c'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée dans la Semeur, ces versets donc 12 et 13 de Zacharie 6. Tu lui diras, alors écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est Germe, intéressant, hein, s'appelait Germe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelait Germe, et sous ses pas tout germera. C'est magnifique. Hein. Il bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de la majesté royale et il siégera sur son trône pour gouverner. Il y sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. Donc, Germe, c'est bien sûr une prophétie pour le nom de Jésus lui-même, du Seigneur. Hein, c'est un texte qu'on appelle eschatologique, annonce comment Dieu, dans sa pensée finitive, voudrait les choses. Et ils disent que le Germe sera donc gouverneur et prêtre, en pleine harmonie entre ces deux fonctions. Donc c'est le texte biblique qui est incroyable, qui dit qu'il y a pleine harmonie dans le cœur de Dieu pour construire le temple et construire le gouvernement. Hein, c'est assez incroyable ce texte, il est peu souvent cité, mais je trouve qu'il est extraordinaire. Et dans la Semeur, pour ceux qui ont une Bible Semeur, vous avez une petite note, c'est la note H, que je vous lis sur ce verset. Une telle union des deux fonctions était normalement strictement interdite en Israël. J'ai toutes les références d'un, de chroniques, dans les nombres, etc., qui montraient les interdictions de cumuler les fonctions de sacrificateur et de gouverneur. Il fallait que les choses soient séparées. C'est une saine laïcité. Mais pour le Messie, selon le psaume 110 et ce texte-là, ces deux fonctions sont prévues, réconciliées. Alors c'est hyper intéressant. Seul le germe, Jésus-Christ, exercera un gouvernement et une prêtrise parfaitement réconciliés. C'est-à-dire s'occuper des affaires de Dieu pour faire la prière, les louanges, les sacrifices, l'adoration, et gérer la cité, et parler de l'économie et de la politique. Parfaitement réconciliés. Et à partir de ce texte, c'est intéressant de savoir si on était moins nombreux puis en petit groupe de cellules. Là, je vous laisserai la parole. Puis j'irai. Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Comment vous comprenez ce texte pour nous aujourd'hui? Et là, vous avez deux écoles de théologie. Une école majoritaire qui va dire, vous voyez, dans la Bible, c'est clairement séparé. Donc la Bible est pour la laïcité. Il y a les prêtres qui s'occupent de l'Église et il y a les rois et les gouverneurs. Et on ne doit pas le faire, il y a une interdiction, et ce texte confirme cette interdiction pour dire il n'y a que Jésus et plus tard. Donc pour le moment, interdiction. Et une autre école minoritaire qui dira plutôt l'inverse en disant, vous voyez, le cœur de Dieu, c'est de réconcilier les choses. Jésus est notre modèle. Bien sûr, ça sera uniquement vrai, pleinement, et ça sera que lui qui pourra parfaitement réconcilier ça, mais c'est le modèle. C'est juste, c'est bon, il faut y tendre, il faut y travailler. Vous voyez, hein, donc moi, je ne vais pas vous dire mon interprétation personnelle, mais vous la sentez peut-être, mais en fait, il y a clairement ces deux pensées, selon nos pensées, ce qu'on peut avoir, on peut vraiment dire, c'est que Jésus, c'est pour plus tard, il faut une stricte séparation, et l'Église ne doit absolument pas faire de politique, il y a même des Églises qui vont jusqu'à dire, on ne doit même pas voter, hein, des frères d'Arbistes et d'autres gens comme ça, pensent qu'on ne doit même pas, Dieu conduit le monde. De toute façon, tout est déterminé, tout est prévu. Ce n'est absolument pas notre rôle d'intervenir. Rien. On prie juste pour les autorités, on ne vote même pas, ce n'est pas nos affaires, ce n'est pas notre domaine, et on se prépare au ciel. Et d'autres pensent qu'au contraire, on a un rôle de modèle, d'inspiration, d'ambassadeur, de prophète, pour interpeller, c'est un des rôles de l'Église, d'interpeller le politique, et puis aussi, surtout, d'être personnellement engagé, comme dans une association, dans un conseil municipal. On a d'ailleurs des candidats parmi nous pour ces municipales. Je les félicite et je les encourage. Et puis, l'Église n'a pas à dire qu'il faut voter à gauche ou à droite, mais elle a vraiment à être une inspiration pour dénoncer l'injustice. Les prophètes n'ont pas arrêté dans l'Ancien Testament de dénoncer l'injustice et plein d'autres choses qui peuvent nous encourager à aider les gens et à intervenir dans la société en général. Il y a des enseignements entiers sur l'économie, selon Dieu, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? Il y a des gestions de base sur le fait d'avoir des jours de congé. Hein, ça, c'est dans la Bible. Et plein de Landa Cope, de James, par exemple, fait des livres entiers pour voir tous les principes bibliques qui permettent à un pays de gérer les choses sainement et saintement. Voilà. Il ne s'agit en aucun cas, petite précision, d'imposer aux gens un culte, une prière, qu'ils deviennent chrétiens. Il n'y a aucune coercition possible en matière de foi. Il faut laisser la liberté de culte, il faut laisser les autres religions aussi intervenir. On revendique la liberté de culte pour nous et pour les autres. On ne peut jamais forcer quelqu'un à se convertir, à prier, à intervenir. Il ne s'agit absolument pas d'imposer une charia chrétienne ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. C'est lors des pensées et des impulsions, comme les autres citoyens, hein, parce qu'on n'est pas des sous-citoyens, on n'est pas une sous-classe, mais nous, inspirés par le Seigneur, comme d'autres sont inspirés par d'autres. Donc je vous propose de voir 6 points, rapidement, dans Zacharie, qui sont pour moi le cœur de Dieu qui fonde son action quand il a voulu reconstruire le temple et qu'il a voulu avoir une église, on va dire ça comme ça pour nous aujourd'hui, rayonnante et qui a un impact autour de nous, pour que nous ayons vraiment un impact autour de nous. Alors dans le chapitre 1 de Zacharie, il y a un premier fondement qui est posé, qui est très intéressant. Pour ceux qui ont une Bible sous les yeux, vous pouvez le regarder. Autrement, vous pouvez prendre des notes et puis le revoir à la maison. Donc le premier, c'est chapitre 1, verset 12. Zacharie commence en disant, « Là-dessus, l'ange de l'Éternel s'exclama, Seigneur des armées célestes, voilà 70 ans que tu es irrité contre Jérusalem, contre les villes de Juda, jusqu'à quand tarderas-tu à les prendre en pitié ?» Donc, il y a un cri d'un ange, hein, l'ange de l'Éternel s'exclama Seigneur des armées. Zacharie est en dialogue avec le monde spirituel, hein, nous on pourrait dire ça devrait être avec le Saint-Esprit, mais là Zacharie, il a un ange, et ça, il entend un ange dire, jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand? Et c'est très très bien, parce que ça nous rejoint profondément dans la base de notre engagement dans la société. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que notre cri se sent, mais jusqu'à quand il y aura des guerres? Jusqu'à quand il y aura des viols? Mais Seigneur, mais tu as de la compassion. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, c'est le premier problème. On dit, s'il y avait un Dieu d'amour, c'est bien beau ce que tu me dis, j'aimerais bien y croire, mais s'il y avait un Dieu, est-ce que ça serait possible dans des telles horreurs? Tu vas me dire qu'il y a un Dieu, puis qu'il peut tout, et puis qu'il est amour. Mais tu as vu ça? Tu as vu ce qu'on m'a fait? Tu as vu ce que je vis, hein? Première question. Eh bien, c'est dans la Bible. La même chose, vous voyez, Zacharie, il veut recommencer à construire le temple. Première question, il entend un ange dire, pour le rejoindre, pour être avec nous. C'est normal que tu te poses ces questions. Même l'ange de l'Éternel s'exclama, l'ange qui pose la question à Dieu, jusqu'à quand? Pour nous rejoindre, vous voyez, pour dire, on en est là, on part ensemble, jusqu'à quand il y aura du mal? Et verset 13, il y a une réponse, parce que c'est le monde céleste qui nous rejoint, c'est tellement beau ça, hein, pour nous enseigner. Il prend au même endroit où on est, mais jusqu'à quand Seigneur aura du mal? Et le Seigneur répond à cet ange au verset 13. Alors l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait. Il répondit par des paroles bienveillantes et des paroles de consolation. Il ne nous dit pas tellement le contenu, il y a quelques indications après, mais surtout, c'est là que j'aimerais relever comme premier point, on est toujours dans ce premier point, poser le fondement. Nous nous posons des questions, Seigneur, jusqu'à quand le mal, le monde se pose des questions, s'il y a un Dieu d'amour, comment c'est possible? Dieu répond par des paroles bienveillantes et de consolation. Premier modèle d'attitude dans notre cœur, quand vous avez quelqu'un qui vient vous poser des questions, un collègue de travail, un ami que ça, qui vit une souffrance, qui vit le décès de sa fille, qui vit un cancer, qui se pose des questions sur les guerres, commencez pas à lui faire des théories que c'est le péché, que c'est ci, puis qu'il est mauvais, puis qu'il y a Satan, il va hurler, puis il va rien comprendre, il va pas se sentir rejoint. Dieu répond par des paroles bienveillantes et de consolation. Consoler, consoler les autres. Être bienveillant avec les autres. Accueillir l'autre. Ils n'ont pas besoin de théorie de plus. Ils ont besoin juste d'être accueillis, d'être conseillés. Comme plusieurs d'entre vous le font, vous ouvrez votre maison à Noël, je pense au criblé. Ça, c'est des paroles bienveillantes, des paroles de consolation. C'est ça que le monde a besoin. Première chose là-bas, c'est normal, on se pose des questions, il y a des révoltes, il y a des rébellions. Dieu répond à cet ange, il lui fait poser la question à l'ange et il lui répond... Soyons des hommes à cette image, d'abord en politique, on parle bien de politique, d'enjeux d'économie, avant tout pas des théories, soyons des hommes et des femmes bienveillants et consolants pour les autres. Ça c'est le premier point, connaître le cœur de Dieu, être assuré du cœur de Dieu, il est bienveillant, il est consolant devant ses... plus qu'expliquant, vous voyez dire, nous on a envie d'être expliquant, théorisant, etc. Le Seigneur lui-même qui a toutes les réponses, il est consolant, bienveillant, soyons conseillants, bienveillants. Deuxième point, on passe au chapitre, et on va vite en faire un survol rapide. Chapitre 2, j'essaye de relever une clé dans chacun de ces chapitres pour nous orienter. Donc, premier point, consolant, bienveillant, soit assuré que le cœur de Dieu est en notre faveur, en faveur des hommes, il les aime, il ne veut pas les détruire, il veut que tous soient sauvés, c'est ça le cœur de Dieu, à nous d'être pareil, ce cœur bienveillant ouvert. Deuxième point, chapitre 2, versets 5 à 8. Ça mériterait toute une prédication, des fois je prêche là-dessus, mais là je le mentionne juste. Ce texte, c'est le fameux texte du géomètre, hein, Mathias. L'arpenteur s'est mis dans la Bible ce matin. Je regardais et je vis un homme qui portait un cordeau d'arpenteur. Je lui demandais, où vas-tu? Il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour en déterminer la largeur et la longueur. Voilà, là on est dans les théories, là on commence, c'est bien, on a été bienveillant, on a été compatissant, ça va bien, joli, l'amour, ça. Il faut quand même avoir des réponses, hein. Il faut quand même qu'on mesure les trucs maintenant. Allez, on va passer au contraire. Donc on veut reconstruire Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait? On analyse et on mesure. On vient qu'un cordeau à mesurer, il faut du concret. Et selon nos ministères, on peut être plus intéressé au bienveillant, douceur, tout ça, d'autres dire, ah ben enfin c'est du concret, on va mesurer, on va faire des choses, hein. Comme l'ange qui me parlait s'en allait, un autre ange va à sa rencontre et lui dit, « Cours, dépêche-toi, il y a urgence. Va dire à ce jeune homme là-bas qui est en train de se mesurer, il y aura un jour tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte. Moi, l'Éternel, je serai pour elle comme une muraille de feu tout autour d'elle. Ainsi déclare le Seigneur, l'Éternel, je serai sa gloire au milieu d'elle. » Allons, cours, dis à ce jeune homme, « Je veux... mon cœur, c'est que Jérusalem soit ouverte. J'aimerais qu'il y ait tellement de monde qu'il n'y ait plus besoin de murailles. Oui, mais attention, moi je raisonne. Hein. Plus il y a de monde, plus on sera attaqué, plus il y aura de richesses, plus c'est dangereux, plus il faut de murailles, plus il faut de protection. Oui, c'est moi-même qui serai ta protection. Tellement beau. Hein. Vous voyez, dans ce cœur de Dieu sur la politique de la ville, il désire une ville ouverte. Il veut une ville qui lui fasse confiance, pas illuminée sur le fait qu'il n'y a pas de muraille, rien. Dieu répond à ça. Je serai moi-même une muraille de feu. Je serai moi-même. Quelqu'un disait hier soir, dans notre soirée de louange, en fait, si je donne tout à Dieu, des gens vont me dire peut-être, mais tu n'as plus rien, tu as perdu. C'est la prophétie du champ. Vous savez, on trouve un trésor dans un champ, on donne tout ce qu'on a pour acheter le champ. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un trésor. Ça, c'est la même chose. Tu es dépouillé, tu n'as plus rien. Tu n'as plus de muraille, mais c'est terrible. Oui, mais Dieu sera lui-même ta protection de feu. Vous voyez? Alors, ça pourrait être très concret, hein, après c'est des questions très difficiles à gérer. Hein. Vous savez le problème qu'il y a avec les réfugiés aujourd'hui. Hein. La Turquie qui veut ouvrir les frontières, des masses de réfugiés, comment agir en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire. Dire oui, on ouvre les frontières, c'est peut-être irresponsable. Dire non, quand les gens n'ont rien, ils n'ont rien, ils n'ont rien, on a peur, nous, d'être dépouillés. Oui, mais peut-être qu'on peut avoir un peu moins, puis un peu plus. Oui, mais alors, si on ouvre les frontières, il n'y a plus... Ouais, mais... Nous, on peut se dire, Seigneur, qu'est-ce qui est juste? On veut t'écouter. On veut t'entendre. Qu'est-ce qu'on peut recevoir de toi? Je serai moi-même votre protection. C'est plus ces mesures étriquées qu'on mesure à notre mesure. On est un peuple de Dieu qui a un autre avis, une autre pensée, qui est inspiré par lui. Chapitre 3, on lit le verset 1 à 4. Chapitre 3. Ça, c'est le troisième point après l'étape de la bienveillance, après l'étape de la consolation, après l'étape où Dieu veut nous briser nos mesures étriquées pour nous donner sa protection, sa vérité à lui. On passe un pas de plus pour ce troisième point. Dieu veut toucher quelque chose de très profond en nous là. Ça, c'est une étape clé, cette troisième étape pour notre service dans la société. C'est une étape personnelle. Il dit, maintenant, je vais travailler avec toi. Je t'occupe pendant un petit moment sur ce point-là. Tu n'occupes plus du monde. Tu n'occupes plus des autres. Je vais travailler avec toi. Il me fit voir Josué, le grand prêtre. Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait là pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché du feu? Or, Josué était effectivement couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et lui ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse Josué, regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute, la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fer. Alors je criais qu'on lui remette un turban, etc. etc. Donc, devant cette difficulté, cette culpabilité, cette situation, il est accusé. Il est accusé. Et on pourrait dire, il est accusé à tort. Donc l'ennemi fait... Non. Il a effectivement, nous dit la Bible, des vêtements sales. Il y a des raisons de nous accuser. J'ai trouvé très intéressant un coach psy qui faisait une vidéo, pas forcément chrétien, en tout cas elle est laïque, mais... Lui, peut-être, est chrétien. En tout cas, je trouve qu'il est excellent. Il disait, quand vous êtes accusé, je pense que vous êtes comme moi, hein,
on ferme tout de suite.
Ouh là là, hein, on se durcit, on ne veut pas. Puis lui, il disait, comme coach non-chrétien, là, qui dit, mais pourquoi vous fermez? Rien à peur. Acceptez. On dit, t'es comme un vieux orgueilleux. Bon, c'est mal dit, c'est violent, c'est méchant, tout ça. Mais au fond, il dit, mais dites, oui, c'est vrai, je suis orgueilleux. « Ah, oh, t'es agressé les autres, t'es méchant, t'es violent. » Mais oui, il y a de la violence en moi. Pourquoi vous refusez toujours tout? Une part, bien sûr que c'est mesuré, bien sûr que c'est méchant. On ne s'inquiète pas de l'autre, il est fâché, comme nous tous, on dit trop, on dit méchant. Mais au fond, acceptez, dire oui, vous avez des habits sales. Et c'est intéressant d'entendre un coach non-chrétien dire, on va accepter, l'humain, c'est ça. Il est tordu, il est bizarre, il est violent, on a tous en nous. Pas tous les mêmes choses, mais tous quelque chose. On est tous égoïstes. Vous avez votre femme ou votre conjoint qui dit, tu penses pas assez à moi. Au lieu de dire, ah, mais je dois faire quelque chose. Non, ben oui, oui, c'est vrai. Je ne pense pas assez à toi. Ah, tu n'es pas désintéressé quand tu fais ce cadeau. Oh, comment tu peux dire ça? Ben oui, c'est vrai, je ne suis pas totalement désintéressé. Reconnaissons les choses. Vous voyez, hein? Et je trouve intéressant ce que je dis, et c'est exactement la situation là. Pour être délivré de la culpabilité, pour qu'on enlève ces habits sales et qu'on reçoive par grâce des vêtements de fête, il n'y a pas de fête. Si on n'avait pas d'habits sales et qu'on dit juste, mais non, t'as vu, c'est pas si moche que ça. Bon, mais t'auras pas tes habits de fête, alors c'est pas si moche que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ne reconnaît pas qu'on est gracié, c'est parce qu'on est pécheur, eh bien, alors on passe à côté de l'habit de fête. Ton habit, il va à nous. Bon, si il va, ben, il va, c'est bon. Non, pas d'autre. Hein. Si tu veux pas mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Josué vit quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il se voit, qu'il se sait avec ses habits sales. Et quand l'ange dit, ôtez-lui, le Seigneur dit à l'ange, ôte-lui ses habits sales, la honte, il m'a dit, j'ai des habits sales, oh, devant tout le monde, devant les puissances célestes, etc., c'est terrible. Ben, Josué dit, ben non, c'est pas vrai, il aurait pu dire, ben, c'est pas vrai, il aurait pu argumenter, oh, ils sont pas si sales que ça, ou bien, oh, c'est ceux que l'Éternel m'avait donné l'année passée, oui, mais t'as travaillé depuis, t'as besoin de choses nouvelles, mon pauvre. Il se laisse faire, et il est revêtu d'habits de fête. Et ce matin, quelque chose au cœur de notre action, quel que soit notre ministère, si on veut recevoir les habits du Seigneur pour être au milieu de cette société, au milieu de nos collègues, au milieu de nos conjoints, au milieu de nos familles, au milieu de tout ce qu'on veut vivre, au milieu de nos projets, si on veut être revêtu d'habits de fête, si on veut recevoir la grâce de Dieu, il faut se reconnaître qu'on a des habits sales. On est comme on est. Et c'est tellement libérateur, finalement, quand on a fait ce pas après. Hein, tant qu'on se bat, c'est dur. Puis quand on reconnaît ben, que je suis ce que je suis, ben oui, c'est vrai. Eh ben, je reçois ces habits de fête du Seigneur. Donc, des paroles bienveillantes, consolantes. Ensuite, une ville ouverte dans mes raisonnements, je reçois la mesure du Seigneur. Troisièmement, il me met en habit de fête, il me délivre dans ce monde la culpabilité. Je peux être ce que je suis par la grâce de Dieu. Chapitre 4, quatrième clé. On va lire les versets 4, 5 et 6. Chapitre 4, quatrième clé. Reprenant la parole, je questionnais l'ange. Vous voyez, c'est merveilleux ce texte, parce que alors qu'il reconstruit le temple, il n'arrête pas d'avoir des questionnements. Vous pouvez relire ce livre de Zacharie complet, c'est génial. Il y a les questions des anges aux hommes, les questions de Dieu aux anges, les questions de l'ange à Dieu, les questions de Zacharie à l'ange. Enfin, c'est super ça. Et c'est des questions qu'on a et qui nous donnent des valeurs de base extraordinaires. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Il me dit, ne sais-tu pas ce que cela représente? Et là, magnifique. Oui, je sais un peu, j'ai appris, oui, je pense que, on sort nos théories. Non. Non, mon Seigneur. Il reprit et me dit, voici le message de l'Éternel, etc. Il explique ce qu'il a. Cette chose tout simple, ne sais-tu pas que Dieu le pose? Et il répond, non. Moi, franchement, quand quelqu'un dans l'église ou dans la relation d'un vient vers moi avec un gros problème, au fond de moi, je ne le montre pas, mais je panique, je m'inquiète, j'essaie de trouver une solution, parce qu'on sait que tous les psys disent que ce n'est pas bon, qu'il ne faut pas chercher des solutions pour les gens, voilà, ça, c'est ce que Dieu dit, etc. Tu ne sais pas? Ben, dis non, non, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, c'est tout. Mais comment tu ne sais pas? Puis c'est drôle, parce qu'il ne sait pas, puis il insiste, c'est-à-dire, mais comment ça, tu ne sais pas? C'est vraiment tout pour dire, ouais, mais comment... Non. C'est l'homme de Dieu, c'est les anges, c'est Dieu et tout ça, il y a un dialogue, c'est un homme qui est super, qui va reconstruire le temple, tout ça. Ne le sais-tu pas? Ben non, je ne sais pas. Ça nous enseigne simplement la vérité et l'humilité. Et dans ce monde, qu'est-ce qu'on manque de vérité et d'humilité? Vous êtes dans la société, dans votre village, dans votre ville, etc. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous avez toutes les réponses. On pose une question, on répond, ben non, je ne sais pas. Ah bon, tu ne sais pas? Ben non, je ne sais pas. Et ensuite, verset 6, qu'est-ce qu'il lui dit? Voici le message que l'Éternel adresse alors. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Et ça, c'est de nouveau une règle fondamentale. Humilité, mais pas mollesse. Pas, bon, finalement... On ne sait pas que voter, on ne sait pas que dire, on n'a rien, non du tout. Tu sais pas, ok, tu sais pas. Mais tu t'attends à Dieu, parce que Dieu dit ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, un fondement dans notre vie. Dire, Seigneur, je peux répondre non, mais je ne m'arrête pas là. Non, ben bon, on ne sait pas. Bon, allez, on va jouer aux cartes. Non, on va chercher l'esprit du Seigneur. Cet esprit qui répond des paroles bienveillantes, de consolation. Cet esprit qui nous délivre de notre culpabilité. Cet esprit qui dit pas tes petites limites étriquées, mais mes limites. Cet esprit du Seigneur va nous communiquer sa force et sa pensée. Et pourquoi ? Pourquoi on veut faire tout ça ? Eh bien, le chapitre 7 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le chapitre 7, c'est une autre prédication, je vous le résume rapidement, parce que c'est extraordinaire. La question du chapitre 7, au verset 3, c'est « Dois-je continuer à pleurer et à jeûner ?» Parce que ça fait des années et des années qu'au cinquième mois, je fais des jeûnes et des prières, et aussi au septième mois, pendant 70 années. Vous vous rendez compte? Ça fait 70 ans qu'on jeûne et qu'on prie 2 mois par année, et puis rien ne change. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va continuer? On rejoint un petit peu notre première question, vous savez, de l'ange au début, mais comment c'est possible, quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu tarderas, Seigneur, à intervenir? Et là, on est au milieu du texte, et revient à cette question. Mais est-ce qu'on doit continuer comme ça, finalement, à nos réunions, à nos cultes, dimanche après dimanche, à nos lectures de la Bible, où on est bien, on est moins bien, où ça va, nos petites cellules de prière, ça va moins bien, etc. Et puis, à un moment, je suis bon chrétien, il y a une bonne louange, à un autre moment, la louange, ça va pas. J'ai le moral, j'ai pas le moral, j'ai une opération, ça va de nouveau pas. Ça... Est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça? C'est vraiment le ciel? C'est vraiment ce que Dieu veut? Et là, la réponse de ce chapitre 7, c'est extraordinaire. C'est la clé au verset 5. Il répond pas jusqu'à quand tu dois continuer à venir au culte. Hein. Il dit pas si tu dois continuer à lire la Bible ou pas. Mais il te dit quand tu fais tout ça. Juste une petite question, dit Dieu. Quand tu fais tes cultes, quand tu fais ta vie, quand tu veux servir ta municipalité, quand tu veux inviter les gens pour Noël, quand tu veux aller évangéliser, quand, tout ce que tu fais, dans ton couple, dans ta famille, tout ce que tu fais, tes vacances, comme ton jour de travail, comme à l'église, comme lundi matin, est-ce pour moi vraiment que tu le fais? Ou est-ce pour toi, pour les autres, pour toutes sortes de choses. Dieu nous pose une seule question, la seule chose qui l'intéresse sur notre activité, notre engagement dans la vie, dans la société, c'est est-ce que c'est pour moi que tu le fais? C'est tout ce qui l'intéresse. Pas que ce soit de gauche ou de droite, pas que tu sois engagé plutôt là, plutôt là, plutôt selon nos caractères, tout ça c'est bon. Mais quand tu lui demandes, est-ce que je dois continuer comme ça? Il dit, c'est ok si ton cœur est pour moi. Vous voyez ce que je dis? Et ça, c'est super intéressant parce qu'au lieu de se juger les uns les autres sur notre engagement, sur notre style, sur ceux qui pensent qu'on doit faire que des grandes conventions, puis ceux qui pensent que c'est des allumés, qu'il faut faire du social, et puis on va s'opposer de ces visions de l'Église. Dieu ne s'intéresse pas à ces débats-là. Même sur la théologie, il n'en a pas grand, excusez-moi si je vous scandalise, mais Dieu n'a pas tellement à faire sur les savoir si on est amillénariste, prémillénariste, etc., ces combats. Etc. Par contre, il est intéressé à ton cœur. Est-ce que ton cœur est pour lui? Et puis tu peux avoir un cœur différent de ton voisin, c'est ça le corps, c'est pas un problème. Mais on peut s'interpeller les uns les autres, on peut se questionner les uns les autres, toujours et encore. Est-ce que ton cœur est à Dieu? C'est un petit peu ce que disaient les pères d'Église, hein? Aime Dieu, puis fais ce qui te plaît. Au lieu de répondre toutes les questions qui peuvent vite être morales, qui peuvent même vite être légalistes, hein? On a vu comment Jésus a traité les légalistes, hein, c'est pas très drôle. Ce qui intéressait le Seigneur, c'est ton cœur. Est-ce que c'est pour moi que vous le faites? Tous vos jeûnes, toutes vos prières, ça c'est bien. Mais est-ce que ton cœur est pour moi? Et dernière, sixième principe qui est enseigné dans Zacharie, alors c'est le plus beau forcément, il faut terminer par ça. Vous me direz, puis pourquoi 6 points et pas 7 points quand même, ça serait mieux que ça. Ben non, justement, pas, c'est exprès 6 parce que c'est imparfait ce que je vous dis, et puis il faut continuer vous à trouver le 7e point. Donc point 6 qui est vraiment super au chapitre 8, on va lire les versets 20 à 23. On va faire un petit truc avant ce dernier point. L'heure tourne vite, qui sait, est-ce que vous pouvez juste lever la main ceux qui me donnent encore 5 minutes pour parler? Vous pouvez lever la main. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 minutes, c'est bien, merci. Vous êtes généreux. Alors, chapitre 8, versets 20 à 23. Magnifique. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Des peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Merveilleuse promesse. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant, allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. Et on leur répondra, oui, moi aussi je veux y aller. Ainsi des peuples nombreux et des nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes en ce temps-là. Des hommes de 10 nations parlant différentes langues s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement. Ils déclareront, nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est extraordinaire, ça doit nous faire bouillir de joie, ça. Le cœur de Dieu, c'est que les gens, dans notre attitude au milieu de cette société, ils aient tellement compris qu'on reflète ce Dieu qui a des paroles de consolation, d'être délivré de la culpabilité, qu'il n'y a pas de mesure, que c'est par son esprit, etc. On est les porteurs de ce royaume qui fait que des nations entières, que d'autres personnes, d'autres villes, qui ne sont pas du peuple saint, qui ne sont pas des chrétiens, ils vont venir et ils vont dire, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi? C'est la présence de l'Éternel. Ce n'est pas la sainte doctrine, ce n'est pas un super truc ou comme ça où on a résolu tous les problèmes. Non, 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 il y a encore des difficultés, il y a encore des combats. On n'a pas réponse à tout, il faut rester dire, ben non, je n'ai pas de réponse à ça. Mais il y a la présence du Seigneur. Il y a la présence du Seigneur là. Et les gens, ils vont tirer par le paletot, Jean-Marie, hein, par le costume, par le bas de la veste, dire « Mais tu vas où au culte, toi, là où, tu vas où au culte? Qu'est-ce qui se passe? J'entends dire qu'il y a la présence du Seigneur. Il y a quelque chose de bon, ça me console, ça m'encourage, ça me fait du bien. J'ai besoin de ça, je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas toutes les guérisons, mais je m'attends à la présence de Dieu, il y a des choses qui vont se passer, j'ai envie d'y aller. » Pour moi, c'est le summum du bonheur sur cette terre, dans notre engagement de l'Église en politique, je reviens à mon thème, c'est viser que des hommes et des femmes qui nous entourent, qui galèrent dans la vie, qui sont gilets jaunes ou autres, puissent dire, là, il y a quelque chose qui se passe. Ils n'ont pas toutes les réponses, ils ne sont pas meilleurs que nous, ils sont aussi malades, ils ont aussi des difficultés, ils ont aussi des combats, ils sont aussi au chômage, ils sont comme nous, mais il y a la présence du Seigneur, et j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y venir. Amen. Ça nous fait envie, ça. C'est ça qu'on a envie. On va se lever, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il le fasse parmi nous. Levons-nous et prions. Seigneur, merci beaucoup parce que ta parole est merveilleuse et qu'elle est pleine d'indications pour que nous puissions vivre quelque chose du germe, notre modèle Jésus-Christ, pour que germe des choses sur notre passage, Seigneur. Prions que dans ce monde qui a la désespérance, qui a des difficultés, et nous aussi parfois nous sommes dans la désespérance, dans les difficultés comme eux, mais nous avons accès à ta présence. Nous avons accès à ton cœur et tu veux nous communiquer ta puissance, tes dimensions, ton cœur de bienveillance, de compassion, tes limites qui ne sont pas nos limites, la force de ton esprit, ni par force ni par puissance, mais par ton esprit. Seigneur, merci parce que nous prions pour que des hommes et des femmes puissent nous attraper, nous questionner, nous demander qu'est-ce que tu as de différent, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est cette présence à la maison de l'espérance, qu'est-ce que c'est la présence de Dieu dans ta vie, et qu'on puisse prier, qu'on puisse bénir, qu'on puisse encourager, qu'on puisse parler de toi, qu'on puisse inviter. Seigneur, tu fais de nous tes ambassadeurs. Nous voulons reconstruire le temple, nous voulons relever les ruines, nous voulons que ta présence soit à nouveau connue, reconnue, et tu nous emploies, tu nous envoies. Seigneur, nous recevons cette mission de toi et nous voulons relever la tête avec toi. Merci, Père, de construire nos vies, construire nos caractères pour que nous soyons tes témoins. En Jésus. Amen.